Chapitre 23, diverses branches du travail missionnaire. En faveur des aveugles. Des anges sont au service des enfants de Dieu qui souffrent de cécité. Ils protègent leurs allées et venues et les mettent à l'abri de mille dangers qui, sans qu'ils s'en rendent compte, les menacent à chaque pas. Il n'exaucera pas les prières de ses enfantants. Qu'ils ne s'occuperont pas des aveugles dans leur rang. S'il y avait dans l'Église des membres se livrant à des actes répréhensibles à l'égard des aveugles, ils devraient être déférés en justice. Car Dieu a fait de nous les gardiens des aveugles, des affligés, des veuves et des orphelins. La pierre d'achoppement mentionnée dans la parole de Dieu ne désigne pas un bloc de bois ou autre qu'on placerait sur le chemin des aveugles pour les faire tomber. Elle représente bien plus que cela. Elle s'applique à tout comportement se proposant d'attenter à l'influence de l'aveugle, de nuire à ses intérêts ou de faire obstacle à sa prospérité. L'infirmité de l'aveugle l'oblige à faire face, de tous côtés, à certains inconvénients. Un cœur endurci au point de n'éprouver ni pitié ni sympathie en regardant un aveugle chercher sa voie en tâtonnant dans un monde qui, pour lui, se trouve enveloppé d'obscurité, a vraiment besoin d'être attendri par l'action de la grâce de Dieu. Prendre soin des orphelins. Aussi longtemps que la mort ne sera pas engloutie dans la victoire, il y aura des orphelins que les membres d'Église devront aider et entourer de sympathie et d'amour pour qu'ils n'aient pas trop à souffrir de leur état. Le Seigneur dit, « Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. » Les chrétiens doivent tenir lieu de père et de mère à ces malheureux privés de foyer. La compassion en faveur des veuves et des orphelins manifestée dans des prières et des actes est prise en considération par Dieu qui la récompense au fur et à mesure de ses manifestations. En secourant les pauvres, en sympathisant avec les affligés et les opprimés, en manifestant de l'amitié aux orphelins, vous entrez en communion plus étroite avec Jésus. Il y a des orphelins que l'on peut secourir, mais beaucoup de membres ne veulent pas s'engager dans une telle initiative, car elle implique davantage d'efforts qu'ils ne sont disposés à tenter, ne laissant que peu de temps à consacrer à leurs aises. Mais au jour où le roi des rois procédera à son enquête, ces personnes égoïstes, avares et indolentes apprendront que le ciel est offert à ceux qui ont été diligents dans leur travail et qui, pour la cause du Christ, ont su renoncer à eux-mêmes. Aucune possibilité de salut n'est prévue en faveur de ceux qui ne se sont jamais souciés que d'eux-mêmes. Dans leur cas, ce n'est pas pour des crimes graves que le roi les menace du terrible châtiment qui frappera ceux qui sont à sa gauche. Ils ne seront pas condamnés à cause de certaines choses qu'ils auraient commises, mais à cause de celles qu'ils n'ont pas faites. Ils n'ont pas accompli la mission que le ciel leur avait confiée. Ils se sont complus en eux-mêmes, ils trouvent donc leur récompense dans les plaisirs égoïstes. N'y a-t-il pas des orphelins que le Seigneur nous invite, en tant que disciples, à recueillir comme un dépôt sacré? Trop souvent on les néglige. Ils peuvent être en haillons, grossiers et repoussants à bien des égards. Néanmoins ne sont-ils pas la propriété de Dieu? Ils ont été rachetés à un grand prix, et ils sont aussi précieux que nous à ses yeux. Ils sont membres de la grande famille de Dieu. En tant qu'économes du Seigneur, les chrétiens seront appelés à rendre compte d'eux. Je te redemanderai son sang, dit l'Éternel. Le Seigneur exige de chaque membre d'Église qu'il fasse son devoir à l'égard de ses orphelins. Cependant, n'agissez pas uniquement pour accomplir votre devoir, mais surtout parce que vous les aimez et que le Christ a donné sa vie pour les sauver. Il a racheté ces âmes qui ont besoin de votre secours, et il désire que vous les aimiez comme il vous a aimé malgré vos péchés et votre entêtement. Il n'exaucera pas les prières de ses enfants tant qu'ils ne s'occuperont pas des orphelins, des boiteux, des aveugles et des malades dans leur rang. Un vaste champ s'ouvre devant tous ceux qui désirent travailler pour le maître en s'occupant des enfants et des jeunes infortunés pour les mettre dans des conditions favorables à la formation d'un caractère droit, et en faire des enfants de Dieu. Il y a des enfants peu doués qui ont besoin d'être fraternellement entourés. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui risquent de grandir dans l'ignorance et d'être entraînés dans des associations qui les mèneront au vice et au crime, il faut donc les placer dans une atmosphère favorable et, par des soins affectueux et divinement inspirés, les conduire au Christ. Ce travail en faveur du prochain exige de la persévérance, de l'abnégation et un esprit de sacrifice. Qu'est-ce que tout cela en comparaison du grand don de Dieu en la personne de son Fils unique ? Dieu nous accorde le privilège de devenir ses collaborateurs. Les gens de couleur. Dans ce pays existe un vaste champ où l'on n'a pas travaillé. Les gens de couleur, au nombre de milliers, doivent inspirer considération et sympathie à tout vrai disciple du Christ. Ils ne vivent pas dans un pays étranger et ne se prosternent pas devant des idoles de bois et de pierre. Ils vivent parmi nous, et à maintes reprises, par les témoignages de son esprit, Dieu a guidé notre attention vers eux en nous montrant qu'ils sont des êtres humains négligés. Ce vaste champ non encore cultivé se trouve devant nous pour que nous lui portions la lumière que Dieu nous a confiée. Des murailles de séparation ont été élevées entre blanc et noir. Elles tomberont d'elles-mêmes, comme celle de Jéricho, lorsque les chrétiens se soumettront à la parole de Dieu, qui leur demande d'aimer leur Créateur par-dessus tout et leur semblable d'une façon impartiale. Que chaque Église dont les membres professent croire à la vérité destinée à notre époque s'intéresse à cette race négligée et opprimée que l'esclavage a longtemps privée des avantages de penser et d'agir par elle-même. Engageons-nous à faire quelque chose en faveur des populations du Sud. Ne nous contentons pas du rôle de simple spectateur qui prendrait des résolutions pour ne jamais les appliquer, mais agissons de tout notre cœur, au nom du Seigneur, pour chercher à atténuer la détresse de nos frères de couleur. Dans le livre de vie, on trouve côte à côte le nom des Blancs et des Noirs. Ils sont unis en Jésus-Christ. La naissance, la position sociale, la nationalité et la race n'élèvent ni n'abaissent les hommes. C'est le caractère qui donne la mesure des hommes. Lorsqu'un Indien, un Chinois ou un Africain donne son cœur à Dieu par la foi et l'obéissance, Jésus l'entoure de son amour, quelle que soit sa couleur. Il le considère comme son frère bien-aimé, The Southern Work, 20 mars 1891, page 12. Le jour vient où les rois et les grands de ce monde souhaiteront pouvoir échanger leur place avec le plus humble des Africains qui a mis son espérance dans l'Évangile. Dieu apporte le même soin à amener les membres de la race africaine à le servir qu'il en apportait autrefois à Israël. De son peuple, il exige bien plus que tout ce qu'il a fait jusqu'ici en faveur de toutes les classes des populations du Sud, en particulier des gens de couleur. Ne sommes-nous pas tenus de faire davantage pour les gens de couleur que pour ceux qui ont été plus favorisés ? Qui a condamné ce peuple à la servitude ? Qui l'a maintenu dans l'ignorance ? Si cette race est sous-développée, si ses habitudes sont encore peu évoluées, qui en porte la responsabilité ? Ne sont-ce pas les Blancs ? Après avoir agi à leur égard d'une manière si fautive, ne faut-il pas tenter un sérieux effort pour les sortir de leur état ? La vérité doit leur être apportée. Comme nous, ils ont une âme qui a besoin du salut. La réforme sanitaire. Les adventistes du septième jour devraient se tenir au premier rang des partisans de la tempérance. Sur la question de la tempérance, prenez position sans hésiter. Soyez fermes comme le roc. Nous avons, sur ce sujet de la tempérance, plus à faire que d'en parler simplement en public. Nous devons présenter nos principes dans nos traités et nos revues. Nous devons employer tous les moyens pour réveiller nos frères et sœurs et leur faire comprendre le devoir qu'ils ont de communiquer à d'autres ces vérités. Le succès que nous avons eu dans l'œuvre missionnaire a été proportionné au renoncement et au sacrifice. Le Seigneur seul sait ce que nous aurions pu faire de plus si nous nous étions humiliés devant lui et que nous ayons prêché la tempérance d'une manière claire et directe. L'œuvre de la tempérance doit recevoir du peuple de Dieu le plus large soutien. L'intempérance s'efforce de dominer le monde, la recherche des satisfactions égoïstes se fait de plus en plus impérieuse. Les publications traitant de réformes sanitaires sont donc de plus en plus nécessaires. Elles peuvent être comparées à un bras qui vient soutenir l'action de l'évangélisation, car elles incitent les âmes à étudier la Bible pour avoir une meilleure compréhension de la vérité. Il faut sonner l'alarme au sujet des ravages de l'intempérance. Pour y arriver, chaque observateur du sabbat devrait étudier et appliquer les enseignements contenus dans nos revues et nos ouvrages traitant de la santé. Et mieux que cela, il devrait s'efforcer de diffuser ses publications dans son voisinage, The Southern Watchman, 20 novembre 1902. Ces hommes dans les hautes sphères de la société. Présentons-leur la promesse d'abstinence totale en leur demandant de consacrer au soulagement des malades et des pauvres, ou à l'éducation des enfants et de la jeunesse, les sommes qu'ils dépenseraient en liqueurs, en tabac ou à des choses tout aussi nuisibles. Importance d'un effort soutenu. La présentation de la vérité dans de grandes assemblées peut susciter un esprit de recherche, et il importe particulièrement que cet intérêt soit entretenu par un travail personnel. Les personnes qui désirent acquérir une connaissance approfondie de la vérité doivent recevoir un enseignement qui leur permette d'étudier avec ardeur la parole de Dieu. Quelqu'un doit les aider à bâtir sur un fondement solide. À ce moment critique de leur vie religieuse, combien il est important que des ouvriers bibliques bien dirigés leur viennent en aide et leur dévoilent les trésors de la parole de Dieu. L'occasion favorable est perdue. On n'a pas cherché à entretenir les impressions reçues. Il eût mieux valu que l'intérêt ne fût pas éveillé, car lorsque les convictions récemment acquises ont été combattues et délaissées, il est très difficile de susciter à nouveau le désir de connaître la vérité. Gérance des fonds. Dans tout emploi d'argent, nous devons chercher à réaliser le dessein de celui qui est l'alpha et l'oméga de tout effort chrétien. L'argent est précieux parce qu'il peut faire beaucoup de bien. Entre les mains des enfants de Dieu, c'est de la nourriture pour l'affamé, de la boisson pour celui qui est altéré, des vêtements pour celui qui est nu, une défense pour l'opprimé et un secours pour le malade. S'il n'est pas employé en vue des besoins de l'existence et du bien de nos semblables, pour servir à édifier la cause du Christ, il n'a pas plus de valeur que le sable. Dieu a lui-même dressé des plans pour l'avancement de son œuvre, et il a accordé à son peuple un surplus de ressources pour qu'au moment où une demande d'argent est formulée on puisse répondre, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » On ne saurait emporter de l'argent dans l'au-delà. Il n'y serait du reste d'aucune utilité. Seules les bonnes œuvres faites pour gagner des âmes au Christ nous suivent dans les parvis célestes. Ceux qui n'usent des dons que le Seigneur leur a accordés que pour leur satisfaction personnelle, qui ne tendent pas la main à leurs semblables qui sont dans le besoin, et qui ne font rien pour l'extension du règne de Dieu sur la terre, déshonorent leur Créateur. Coupables de vol envers Dieu, voilà ce qui est écrit dans les livres du ciel en face de leur nom. Quelle valeur l'argent a-t-il aujourd'hui, comparé à celle des âmes? Chaque franc de nos revenus devrait être considéré comme appartenant au Seigneur et non à nous, comme un précieux dépôt qu'il nous a confié, que nous ne devons pas dilapider en choses inutiles, mais employer judicieusement au service de Dieu, pour sauver des hommes et des femmes de la ruine. Le travail missionnaire qui doit être accompli dans notre monde n'est-il pas suffisamment important pour qu'il reçoive notre considération et notre soutien? Ne devrions-nous pas renoncer à toute dépense extravagante et confier nos biens au trésor du Seigneur, pour que la vérité puisse être proclamée dans d'autres pays, et, en même temps, l'œuvre dans notre champ soutenue? Ce grand travail n'est-il pas approuvé par le ciel? L'œuvre qui se poursuit en ces temps de la fin n'a pas été soutenue par des legs importants, ni favorisée par des interventions humaines. Elle a été établie grâce aux dons qui étaient l'expression d'un esprit de renoncement et de sacrifice. Dieu nous a accordé le privilège de participer aux souffrances du Christ ici-bas, et il nous a permis d'acquérir un droit à l'héritage qui nous sera donné sur la nouvelle terre. Il m'a été montré que l'ange chargé d'enregistrer dans les livres du ciel les actions des hommes y inscrit consciencieusement toute offrande apportée au trésor divin ainsi que le résultat final de son emploi. Dieu s'intéresse à chaque centime donné pour sa cause, et il prend note de la bonne volonté ou de la répugnance de son donateur. Son mobile est également indiqué. Ceux qui sont guidés par leur consécration, par un esprit d'abnégation en rendant à Dieu les choses qui lui appartiennent, conformément à son ordre, recevront une récompense proportionnée à leurs œuvres. Même si l'argent apporté dans cet esprit devait être mal employé, c'est-à-dire de manière à ne pas répondre au but pour lequel il avait été donné, la gloire de Dieu et le salut des âmes, ce qu'il avait offert comme une preuve de leur sincérité et de leur abnégation, en ayant en vue la gloire du Seigneur, ne perdent pas leur récompense. Chaque occasion d'aider un frère dans le besoin, ou de soutenir la cause de Dieu dans la diffusion de la vérité, représente une perle que vous pouvez d'avance déposer dans la banque du ciel pour y être en sécurité. Dieu vous met à l'épreuve. Il a répandu sur vous ses bienfaits d'une main prodigue, et il vous observe pour voir quel usage vous allez en faire, donc pour savoir si vous chercherez à secourir ceux qui sont dans le besoin et si, conscient de la valeur des âmes, vous vous efforcerez de bien employer les biens que Dieu vous a confiés. Chacune de ces occasions judicieusement employées accroîtra votre trésor dans le ciel. Tout est enregistré au ciel. Les anges enregistrent fidèlement les actions des hommes. Chaque parole de bonté, chaque prière en faveur des opprimés et des souffrants, chaque acte d'amour est transmis devant le trône éternel et transcrit sur le rôle impérissable du ciel. Les anges informent le ciel de chacun des efforts que nous tentons pour dissiper les ténèbres et répandre la connaissance du Christ. Lorsque le rapport de nos actes est transmis au Père, un tressaillement d'allégresse parcourt toute l'armée céleste. Les anges ont reçu la mission d'être nos assistants. Ils se meuvent entre ciel et terre, transmettant ainsi au ciel le souvenir des actions des hommes. Il serait bon de se souvenir du livre du ciel où tout est enregistré, de ce livre où il n'y a ni omission, ni erreur, et par lequel nous serons jugés au dernier jour. Là, sont mentionnées toutes les occasions perdues. Mais là aussi sont inscrits tous les actes de foi et d'amour dont le souvenir est immortel.